ce matin des mères, des mamans, mais plus spécifiquement donc de la place des mères célibataires dans l'histoire.
Et oui Charlotte, place à celles qu'on a longtemps appelées avec dédain les fameuses filles-mères, ces mères célibataires, donc avec un enfant, mais sans père, connu ou plutôt reconnu, en père non identifié ou surtout en père qui n'a pas pu, mais surtout n'a pas voulu être identifié. L'opprobre qui a longtemps pesé sur ces mères façonne leur histoire.
Alors on va commencer par le début d'une certaine manière. Comment les mères sont-elles perçues dans notre société?
Dès le XVIIe siècle, les Lumières vont donner à l'enfant un rôle majeur dans l'avenir de la nation. Le changement est notable et donc tous les moralistes, médecins ou pédagogues vont désormais s'adresser aux mères et vont les encourager à se consacrer exclusivement à leur rôle maternel et domestique. Le moment est important. C'est bientôt le fameux quasi-slogan de Jean-Jacques Rousseau, les hommes créent, les femmes procréent. Aux pères, la création, le travail, les études et la citoyenneté. Aux mères, l'éducation des enfants, la procréation et la tenue du ménage.
Et cette distribution des rôles parentaux va sans doute faire que s'accentuer avec le temps.
Et oui Charlotte, mère avant tout. Sans cela, point de salut pour une femme. Cette injonction s'exacerbe au fil du temps. La mère devient le pivot de la famille et la famille le socle de la société. Se forge ainsi le modèle, encore très prégnant aujourd'hui, de l'épouse vertueuse, fidèle, bonne mère et parfaite maîtresse de maison. La maternité serait ainsi la grande affaire des femmes et comme l'écrit Émile Zola à la fin du XIXe siècle, la mère devrait être notre religion. Notons déjà ce paradoxe, néanmoins, cette glorification de la maternité n'est assortie d'aucun droit, ni civil, ni politique.
Cette glorification de la maternité a donc ses limites, Valérie.
Eh oui, la mère mariée, la mère parfaite, personnifie la stabilité de l'ordre social. C'est le Graal, en quelque sorte. Un discours surabondant envahit toute la société, mais dans les faits, c'est plus compliqué. La fameuse stabilité est déstabilisée. Il y a des émeutes sociales, c'est la faute des mères qui n'ont pas su éduquer leurs enfants. L'alcoolisme, idem, c'est la faute des mères qui n'ont pas su éduquer leurs enfants, etc., etc. On va donc décider de former les femmes à devenir de bonnes mères, notamment par l'ouverture massive d'écoles ménagères ou encore par des cours de puériculture. Mais dans les faits, les choses coincent en quelque sorte. Les femmes travaillent, on est loin de l'idéal de la femme au foyer, toutes ne sont pas mères et toutes ne sont pas mariées.
Cet idéal de la mère parfaite va donc également à l'encontre finalement de la façon dont les gens vivent.
Et oui, c'est toujours le souci entre la fameuse norme et la pratique, le réel. Si la maternité ne peut être pensée par la société que dans les liens sacrés du mariage, en Belgique, au XIXe siècle, la proportion de femmes mariées est de 45%. Seulement 45%. Célibataires, divorcés ou veuves sont donc légèrement majoritaires. Les célibataires représentent le plus grand nombre de femmes seules. Si elles n'ont pas d'enfants, elles sont considérées comme des femmes inachevées, comme inaccomplies, présentées comme des fruits secs. Mais si elles ont des enfants, c'est bien pire. Car dans cette société qui assimile femme et mère, il n'y a pas pire transgression que la maternité hors mariage. La rupture est ici multiple, la mère célibataire viole la loi civile, la loi religieuse et la loi morale.
Et cette rupture, elle a, j'imagine, de nombreuses conséquences.
Oui, déjà quand il s'agira de penser la démoralisation de la société, statisticiens et moralistes vont s'accorder pour la mesurer, à comptabiliser les naissances illégitimes hors mariage. Ces naissances sont considérées comme une déviance et la société n'a que peu de compassion pour ces fameuses filles-mères, considérées comme des filles perdues, souvent associées aux prostituées. Toute la responsabilité de la fraude, comme on l'appelle, la faute c'est l'enfant, leur incombe. Ces filles-mères sont accusées d'immoralité. Elles sont souvent rejetées, exclues, et du cercle familial et de la société, comme leur enfant dit « naturel ». Si toutes les filles séduites, comme on les appelle également, ne sont pas toutes réduites au désespoir, loin s'en faut, d'autres vivent de véritables drames et la charité, qu'elle soit privée ou publique, s'empare du problème en créant notamment des maisons ou asiles maternels, sortes d'abris provisoires où ces femmes sont accueillies et surtout encadrées moralement. L'objectif est alors d'éviter l'abandon de l'enfant.
Et ce rejet des mères célibataires, est-ce qu'il va encore persister longtemps?
Eh oui, Charlotte, une société qui a choisi comme étalon de l'immoralité le nombre de naissances illégitimes a du mal à se remettre en question. Il faudra bien des combats, et plus particulièrement des avancées dans le droit, avancées obtenues par le combat des féministes pour faire évoluer les choses. Droit qui s'ouvre lentement à la capacité maternelle dans la seconde moitié du XXe siècle. Il faudra aussi le combat d'une femme. En 1974, Paula Marx, mère célibataire, anversoise et journaliste, saisit la Cour européenne des droits de l'homme. En 1974 donc, en 1974 toujours, un enfant né hors mariage ne vaut pas la même chose qu'un enfant né dans le mariage. Selon la loi belge, Paula Marx est obligée d'adopter sa propre fille pour lui conférer les mêmes droits qu'un enfant issu d'un mariage. Paula Marx, elle a gagné. La Cour européenne des droits de l'homme a statué qu'il y avait effectivement une discrimination en Belgique entre les enfants nés dans le mariage, les enfants dits légaux, et les enfants de mères non mariées, les enfants dits naturels. 1974, 13 ans avant la sortie d'une chanson qui reflète les changements quelquefois rapides d'une société, bien que, en effet, en 1987, elle a fait un bébé toute seule, chante Goldman, même si elle court toute la journée, elle court de décembre en été.
Et du Jean-Jacques Goldman pour terminer cette chronique.
Et sur un mec, 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon voit la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même. Devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse. Qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des geeks ou des deals.